l'organisation sanitaire améliorée selon la Banque mondiale. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
Merci Gilbert. Place maintenant à nos invités pour débattre de tout cela sur Skype à Paris. Marie-Roger Biloa, PDG d'Africa International Media Group. Vous êtes ancienne journaliste à Jeune Afrique et également fondatrice du magazine Africa International. Toujours dans la capitale française, Michel Lobé Ewane, ancien rédacteur en chef de Forbes Afrique, membre du conseil d'administration de Joseph Sassoon Group. Et ici à Washington, Karine Kaneza Nontulia, directrice, vous êtes maintenant directrice adjointe de la division Afrique à Human Rights Watch. Merci à tous d'être avec nous. Et je démarre avec vous, Marie-Roger. Depuis l'élection de Olusegun Obasanjo en 1999, le Nigeria a connu quand même des alternances avec différents chefs d'État et le débat sur le troisième mandat ne se pose pas comme dans d'autres pays de la région. Est-ce qu'on peut quand même en déduire que la démocratie nigériane se porte bien ?
Eh bien, c'est-à-dire, évidemment, c'est toujours une question de comparaison. Lorsqu'on regarde dans les pays environnants où l'histoire du troisième mandat, quatrième ou cinquième n'est pas encore réglé. Évidemment, la démocratie nigériane a, du point de vue de la forme, un avantage. C'est-à-dire, on est arrivé à un point où, au bout de deux mandats, on est presque sûr maintenant qu'il y aura alternance. C'est pas, il y aura alternance formelle. Est-ce que en dehors de ce critère, les problèmes sont légion? Alors, chaque fois qu'il y a une élection au Nigeria, quand même, et c'est valable, je dirais, pour la plupart des pays africains, on a quand même le ventre noué et on se dit combien de morts? Une élection, il y aura combien de morts? C'est toujours un processus dangereux, délicat, problématique.
On peut sauver l'inconnu, on ne sait pas trop comment ça va se terminer.
Et tout court, y a toujours, le coût humain est souvent très élevé. Donc, si on parle du processus démocratique au Nigeria, le seul moment, la seule chose, à mon avis, qui est qui a l'air d'être maintenant ancré dans une forme de tradition, c'est l'alternance. Tout le reste, est-ce que l'élection est free and fair, est-ce qu'elle est libre et honnête, est-ce que tout le monde peut vraiment voter? On a vu les embouteillages, les problèmes incroyables qu'il y a eu au moment de la distribution des cartes électorales. Est-ce que les gens qui devraient l'être sont tous inscrits sur les listes d'électeurs, etc. Il y a une série de problèmes, sans parler de la violence qu'il y a pendant les campagnes électorales.
D'accord, comme dans beaucoup de pays, oui, tout à fait. D'accord. Alors, Michel Lobé, Mouhamadou Bouhari va passer le témoin après deux mandats de 4 ans. Boko Haram dans le nord-est n'est pas vaincu. Les enlèvements dans le nord-ouest se sont accentués. Tout comme l'inflation, avec cette pénurie de billets de banque qui fait un peu l'actualité. Comment est-ce que vous jugez le bilan du président Bouhari et comment cela peut influer sur le scrutin du 25 février? Je pense qu'on a quelques soucis de connexion avec Michel. Vous m'entendez, Michel?
Moi, je vous entends par téléphone. Et je ne sais pas si.
Allez-y.
Oui. Ce que je disais, c'est que c'est un bilan du sud qui est fait dans le sens où il est bien que Paris le pays
de manière significative. Mais il ne faut pas toujours regarder les choses sous un prisme négatif. Le Nigeria est un pays, un gigantesque pays, très peuplé, avec des défis qui sont sécuritaires. La violence, comme l'a dit Marie-Roger. Mais c'est un pays également qui avance, qu'on le veuille ou pas, qui crée souvent la surprise, on fait toujours des prévisions apocalyptiques et on se rend compte que néanmoins le Nigeria pose des jalons. Il y a eu pas mal d'infrastructures qui ont été investies, réalisées sous Bouhari. Il n'a pas réussi loin de là à apaiser les fronts sécuritaires, mais je pense que les gens oublient souvent que le Nigeria, historiquement, a toujours été un pays marqué par la violence, et ne date pas d'aujourd'hui, elle ne date pas de la période démocratique, elle a toujours été présente, y compris sous les régimes militaires.
D'accord.
Mais il faut reconnaître que il y a eu quand même des avancées significatives, parce que au moins la violence qui est endémique a été quelque peu contenue auprès face à ces mouvements djihadistes. On a connu pire.
Alors, est-ce que c'est un peu votre appréciation de, disons, du bilan de Buhari? Beaucoup, c'est vrai, applaudissent le fait que le Nigeria respecte un peu le calendrier électoral depuis 1999, mais sur la question des droits humains, le gouvernement et les forces de sécurité sont souvent épinglés dans des rapports. Comment est-ce que vous jugez ce bilan de Buhari?
Merci. En fait, c'est un bilan mitigé. Comme les autres panélistes viennent de le dire, c'est d'abord une élection qui arrive à un moment où nous avons quand même toute une génération, 25 ans depuis la transition d'un régime militaire par rapport au régime de civil. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut remarquer. C'est un bilan où on a, à partir de Human Rights Watch, dans nos rapports et dans nos recherches, où nous avons vu des violences accrues, des abus accrus à partir des forces de sécurité. C'est un bilan où nous devons quand même nous rappeler qu'en 2020-2021, on a vu des mouvements de manifestants contre la section spéciale, la brigade spéciale, contre NSAS, où on a vu quand même des forces de sécurité tirer à feu ouvert sur une jeunesse. C'est aussi un bilan où on a vu une répression plus forte contre le droit à l'expression, le droit à l'association, où nous avons vu un ban sur Twitter de plus de 8 mois. Hein, on se rappelle de ça aussi. Ouais. Les journalistes et les activistes ont été harcelés pendant longtemps. C'est aussi un bilan où nous avons vu quand même des efforts législatifs. J'aimerais quand même le souligner, des efforts législatifs. Par exemple, il y a une loi qui a été votée l'année passée pour justement mettre en place certains outils, certains mécanismes de protection de l'élection de l'élection qui va se passer d'ici quelques jours, d'ici une semaine, un peu plus d'une semaine. Donc voilà.
D'accord. Donc, ok, bilan mitigé. D'accord.
Voilà.
Alors, Marie-Roger, on peut parler un peu du vote communautaire. Est-ce qu'il pourrait affecter cette élection quand on sait que les deux candidats des deux principaux partis sont musulmans, même si Tinubu plutôt est originaire du Sud? Est-ce qu'on devrait parler de cette question encore aujourd'hui pour le Nigeria?
Mais évidemment, c'est même massif. C'est-à-dire le critère, les considérations ethno-religieuses sont au premier plan au Nigeria. Mais pas seulement là-bas, on peut prendre d'autres exemples, au Soudan, on peut prendre en Éthiopie, etc. Bon, c'est un facteur important. Et au Nigeria, on ne fait pas semblant d'ignorer que les gens votent sur la base de critères qui sont liés à la religion, à l'appartenance géographique, le nord, le sud, l'est, l'ouest. Tout ça est entré, non seulement c'est reconnu comme un facteur électoral, mais on l'a presque théorisé. Il n'y a pas de loi. Par exemple, à un moment donné, on se disait, et il y avait une forme de pratique, que si le candidat, le président, et ceux qui sont candidats, le président est du Nord, il doit prendre un vice-président du Sud. S'il est chrétien, il doit prendre un musulman. Donc, c'est des facteurs.
Des lois non écrites, mais qui sont là.
Il faut tenir compte de ça. Et aujourd'hui, on a cette fois-ci, ce n'est pas respecté et on aura des conséquences. C'est-à-dire que Tinubu, qui est donc le parti le candidat du parti sortant, et a pris aussi un musulman. N'est-ce pas? Lui, il est musulman et il a pris un vice-président musulman. Et donc, il y en a qui se disent qu'il va s'aliéner donc
le vote du Sud.
Le vote chrétien, voilà, absolument.
Michel, la frustration qui est née de la pénurie de billets de banque, est-ce qu'elle va forcément profiter à l'opposition? Atiku Abubakar se présente pour la sixième fois. Quelles sont ses chances?
Moi, je pense que de cette pénurie-là, il faut prendre aussi le côté positif. En réalité, la pénurie a ceci de positif dans le contexte de cette élection présidentielle que l'argent va moins circuler. Alors, on sait comment les élections se déroulent au Nigeria. Les candidats achètent des votes, mettent de beaucoup d'argent qui circule de manière excessive. Et cette fois-ci, je pense qu'il y aura moins d'argent pour faire justement... C'est acheter l'élection, frauder avec de l'argent et tout. Moi, je pense que c'est le côté positif de cette pénurie, cette crise du Naira. Mais moi, je veux quand même qu'on retienne une chose, parce qu'on a toujours tendance à peindre les processus politiques en Afrique, les processus électoraux en Afrique de manière très négative. Il faut quand même reconnaître aux Nigériens, depuis... qu'il a, malgré ses défauts qu'on a signés ici et là, il est en train de construire un système qui s'auto-régule. Il faut le dire, et je crois que c'est important de le souligner. On voit bien comment...
Michel, on est obligé d'aller un peu plus vite, désolé. Karine, est-ce que vous pensez que le Nigeria est un peu victime de l'héritage de son histoire politique avec les régimes militaires, un peu dans le mode... Est-ce que vraiment... C'est vrai que depuis 1999, le pays est dirigé par des civils, mais quand on voit tout ce qui se passe, le régime militaire est un peu présent, à votre avis?
Je pense que le Nigeria a une culture militaire assez prononcée et qui est là depuis des années. Ça, c'est la première chose. Victime, je ne suis pas sûre. Je pourrais peut-être plutôt dire que le Nigeria est victime plutôt d'un shift au niveau géopolitique, d'une recrudescence et d'une émergence justement d'un certain type de terrorisme auquel il doit faire face. Lorsqu'on parle de la crise au nord-ouest ou au nord-est, il y a le Boko Haram, mais il y a aussi la compétition des ressources, et là on peut parler des changements climatiques, de la répercussion de ces changements climatiques sur les communautés, et donc ça c'est un phénomène nouveau auquel le Nigeria et d'autres États dans la région du Sahel doivent faire face. C'est aussi quand même, le Nigeria se retrouve dans un contexte assez particulier, je pense que c'est Marie-Roger qui a un petit peu touché là-dessus. Qu'est-ce qui se passe au niveau démocratique? Comment est-ce que certains États, que ce soit le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, etc., il y a un certain quand même, phénomène, un certain changement, shift au niveau de la conduite, du modus operandi des gouvernements de la région à cause de certains phénomènes, y compris le terrorisme et d'autres dynamiques auxquelles ils font face.
D'accord. Alors, on va lire quelques commentaires de nos téléspectateurs laissés sur la page Facebook de VOA Afrique. Alphonse Mbouaki à Kinshasa nous dit que le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique. C'est un poids lourd démographique et économique confronté au groupe djihadiste Boko Haram. Le Nigeria a renforcé sa coopération sur le plan de la sécurité avec les autres pays de la région. C'est pour ces raisons que l'Afrique aura les yeux rivés sur le scrutin du 25 février 2023. Yahou Marcelin Kofi à Abidjan écrit « Le Nigeria est l'un des rares États africains à respecter la limitation des mandats, d'où cette alternance politique à laquelle nous assistons. Ces élections sont importantes dans la mesure où les Nigérians placent beaucoup d'espoir dans la future administration qui pourrait faire mieux que le président sortant Muhammadu Buhari. » Et enfin, Apollinaire Il Boudo, il est à Ouagadougou, il écrit « En tant que modèle démocratique et géant économique, le Nigeria devrait se faire respecter et imposer l'impartialité dans l'espace CDAO, tout comme les États-Unis dans certaines organisations. » Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause.
Salut Dini.
Salut Roger.
Dans Vous et Nous, on parle du sujet qui vous parle.
Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables.
Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures.
Et les bons petits plats.
Yum, une bonne ambiance avec nos invités.
L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines.
Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine.
Vous et nous, c'est nous, c'est vous et nous.
Pour la seconde partie de Washington Forum. Et je rappelle nos invités à Paris, Marie-Roger Biloa, PDG d'Africa International Media Group, ancienne journaliste à Jeune Afrique et fondatrice du magazine Africa International, toujours dans la capitale française, Michel Lobé-Ewané, ancien rédacteur en chef de Forbes Afrique, membre du conseil d'administration de Joseph Sassou Group. Et ici à Washington, Karine Kanezanantoulia, directrice adjointe de la division Afrique à Human Rights Watch. Marie-Roger, le Nigeria, qui avait joué un rôle déterminant dans la gestion de crise en Sierra Leone, au Liberia dans les années 90, et dans la mise en place de structures comme les Comores, est-ce que ce pays joue aujourd'hui le rôle de leader qu'on attend de lui? Il y a un des auditeurs, des téléspectateurs qui l'a un peu dit brossé dans les commentaires.
Eh bien, je crois qu'il y a beaucoup d'attentes vis-à-vis du Nigeria. Et au moment où il y avait eu cette grande polémique au sujet de la CDAO, qui serait une espèce de syndicat des chefs d'État, surtout au moment où on a la CDAO a décidé un embargo, un boycott sur le Mali, le régime militaire, j'ai toujours pensé que la CDAO était une organisation très importante parce que justement, elle n'a pas cessé de régler des problèmes qui se posait dans la sous-région et parmi les États membres, contrairement à des organisations similaires en Afrique centrale, par exemple. Et donc, j'aime beaucoup qu'on rappelle que c'est toujours la CDAO, sous l'égide du Nigeria, certes, qui a réglé le problème au Liberia avec la fin de la guerre civile et l'éviction de Charles Taylor. C'est quand même aussi la CDAO qui a réglé le problème en Gambie avec le départ, enfin disons, quand on a mis fin au mandat de Yahya Jammeh qui avait perdu les élections, qui avait reconnu avant de se rétracter, etc. Donc la CDAO, sous l'égide du Nigeria, a rempli un rôle qui est, je dirais, un rôle absolument essentiel et il n'y a pas de correspondant ailleurs dans la sous-région de cette manière-là. Et le Nigeria, on l'attend précisément sur des terrains stratégiques. Par exemple, la monnaie commune. On avait parlé de l'écho. Hein, l'écho. Alors, c'était très compliqué parce qu'on n'avait pas décidé. Est-ce qu'il y aura, ce sera le Naira qui sera la monnaie de référence et les autres vont s'agréger autour? Ou alors, comment on va faire la jonction entre la zone CFA et les pays non CFA? Parce que quand même, il y en a. Etc. Il y avait un vrai chantier et on attendait que le Nigeria fasse des avancées et prenne le leadership dans cette histoire. Au lieu de ça, on a vu la question leur échapper au moment où la France a décidé de préempter le CFA en l'appelant écho et pour circuiter une réforme essentielle. Bon, ça ne veut pas dire que tout est arrêté. Et c'est au Nigeria, on attend que le Nigeria joue un rôle.
D'accord.
Il faut reconnaître que ce mandat, les deux mandats qui s'achèvent, ont peut-être manqué de leadership sous-régional.
Sur cette question-là, absolument. Merci en tout cas. Michel, le Nigeria est la première économie du continent, mais est-ce que ce pays profite un peu de ce statut sur le plan diplomatique?
J'avoue, et je suis d'accord avec Marie-Roger là-dessus, le Nigeria a peut-être, pendant ces années, Buhari reculé sur le front diplomatique. On n'a pas vraiment senti, c'est vrai, une question qui était une question sur laquelle le Niger aurait pu jouer un rôle de leadership réel, c'était celui de la monnaie. Le Nigeria, je ne sais pas si il s'est laissé intimider par la France ou s'il a fait preuve de timidité, mais en tout cas, il a été absent sur ce débat qui est important, en tout cas sur la monnaie. Bon, peut-être que ce n'est pas dans l'intérêt de l'économie nigériane, mais c'est vrai que sur un autre plan, moi je dirais que le Nigeria est aussi un peu leader, mais sans que ce soit une équation politique ou diplomatique, c'est parce que ces acteurs économiques, ces entreprises, commencent à jouer une partition, elles sont des entreprises panafricaines dans le sens où elles commencent à avoir un leadership sous-régional qui n'est pas sans intérêt, qu'il faut suivre. Mais ce serait encore plus affirmé si on voyait les dirigeants politiques, peut-être le prochain président nigérian, être plus présent sur la scène diplomatique, faire entendre la voix du Nigeria, faire entendre dans des débats qui peuvent être des débats sécuritaires, qui peuvent être des débats dans des crises politiques dans certains pays, être plus présent. Les exemples que Marie-Roger Bidois a soulignés tout à l'heure continuent à se poser. On n'a pas vu le Nigeria sur les crises au Burkina.
Un peu ma question à Karine, qu'est-ce que vous attendez un peu de ces élections du 25 février et le rôle du Nigeria sur le continent?
Ben, je pense que Marie-Roger et Michel viennent de le souligner, c'est que c'est qu'on puisse réentendre encore la voix du Nigeria sur des questions de gouvernance. On parle de monnaie, mais il y a aussi une question de gouvernance au niveau continental et en passant par la région. Nous voyons les efforts de gouvernement comme le Ghana au niveau de l'année passée, lorsqu'il y a eu un sommet extraordinaire sur les changements anticonstitutionnels, nous avons une charte africaine, nous avons besoin de gouvernements comme le Nigeria, non seulement d'autres comme le Ghana, mais des poids lourds comme le Nigeria pour justement pousser le ton et pour créer des précédents de plus en plus élargis sur la question de la démocratie. Et du partage de pouvoir. L'autre question, c'est la question de la justice et mettre fin à l'impunité. Mais cela commence chez soi, n'est-ce pas? Mais que ce soit dans nos recherches, nous avons remarqué depuis des années, nous le disons tout le temps, ce qui pousse, ce qui entretient le terrorisme, par exemple, ce sont les exactions des forces de sécurité nationale. C'est l'absence du soutien gouvernemental lorsqu'il s'agit de l'appareil judiciaire. Nous avons parlé des élections précédentes, mais rappelons-nous, les élections de 2015 ont été reconnues comme paisibles, mais celles de 2019 ne l'ont pas été. Il y a eu des violences au nord et au sud. Il n'y a pas eu de justice pour justement les victimes de ces violences. Et ça, ce sont des choses que les gens se rappellent. Cette élection
du 25,
il faut quand même aussi qu'on se rappelle une chose. C'est aussi une élection où la différenciation des générations, la différence entre les générations est assez palpalable. Nous parlons du troisième candidat, le Peter Obi, comme la troisième force, où il y a une jeunesse qui a évolué à partir des NSAS, qui justement demande de plus en plus son gouvernement de se comporter autrement. Donc ça, ce sont des questions sur lesquelles on attend des réponses.
La question du renouvellement de la classe politique est une question transversale, en tout cas pour le continent. Certainement, on aura l'occasion d'y revenir. Merci à nos invités. C'est la fin de ce Washington Forum. Merci beaucoup. Et également à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent, sur notre site voafrique.com et sur notre page Facebook et également sur YouTube. Un grand merci à toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.